Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission musicale et c'est évidemment pour nous, Institut européen, un grand motif de satisfaction que de vous faire découvrir chaque mois de nouvelles musiques juives. Ces musiques qui font partie intégrante de notre patrimoine nous accompagnent à chaque moment de notre vie, de notre enfance à nos premiers amours, de notre naissance à notre mort, qu'il s'agisse de chants rituels, de berceuses, de chants de mariage. La musique est partout dans le judaïsme, aussi indispensable que l'air qui nous entoure. Et ce soir, nous allons justement retrouver un univers musical dont nous avons déjà parlé à maintes reprises, celui des musiques dites séfarades, ou selon les interlocuteurs judo-espagnols, et c'est toujours une bagarre dans laquelle je ne rentrerai pas. Mais j'ai la chance de bénéficier ce soir de la complicité et de la présence de Sandra Bessis, artiste-interprète bien connue de ce répertoire de musique que l'on qualifiera tout simplement de séfarade. Sandra Bessis, bonsoir.
Bonsoir Hervé, merci.
Écoutez, je suis ravi de vous avoir parce que vous venez de sortir un nouveau disque Cordoue 21 sur les traces de séfarade. Mmh. Et je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé ce disque et j'ai aussi aimé la cohérence de votre démarche dans la réalisation de ce disque. Et je pense qu'on va en parler longuement tout au long de cette émission. Mais avant cela, et pour rentrer dans le vif du sujet, mmh, je vous propose d'écouter dès à présent un premier extrait de ce CD, mmh, le chant de louange Igdal, qui est généralement chanté donc pour l'accueil du Shabbat dans la tradition séfarade, et dont les paroles sont inspirées des 13 articles de la foi du médecin et philosophe juif de Cordoue, Maïmonide. Donc Igdal, interprété notamment par Sandra Bessis.
Merci.
Bye.
Nous venons d'entendre Igdal dans une interprétation très belle de Sandra Bessis. Donc c'est extrait de son nouveau disque Cordou 21 sur les traces de Séfarade. Dites-moi Sandra Bessis, c'est un titre un peu énigmatique. On dirait presque une caricature d'un film de James Bond. Est-ce que Agent 07
oui,
à la poursuite
oui,
du docteur
pas,
Note
allons-y.
Est-ce que c'est volontaire? C'est un clin d'œil au cinéma? Pourquoi ce titre?
Non, c'est pas un clin d'œil au cinéma. À vrai dire, j'ai pas pensé au cinéma. C'est vrai que choisir un titre, c'est toujours un petit peu difficile. Hein. Il doit être à la fois évocateur du contenu de l'album, il ne doit pas être déjà vu, entendu, lu, il doit aussi transmettre quelque chose de ce qu'on a envie de dire, enfin vraiment, et puis être accrocheur. Et puis on voulait que ce soit autour de Cordoue, parce qu'on a, notamment avec Rachid, beaucoup joué à Cordoue, et c'est là-bas qu'est né au tout début le projet de ce CD. Donc, et puis bon. Je vais revenir là-dessus, mais dans tous les cas, ce que j'aime bien, c'est que beaucoup le trouvent énigmatique. C'est vrai qu'il est énigmatique, et du coup, eh bien, ça interroge, et c'est pas mal. Alors, pourquoi Cordoue? Eh bien sûr, d'abord, pourquoi Cordoue? Pourquoi 21, on peut dire? Non, bah, Cordoue, bien évidemment, du fait de ce que la ville représente, hein, en termes de symbole de cette Espagne des trois cultures. C'est quand même un des emblèmes les plus forts. C'est aussi un mythe. Hein, entre réalité et puis réalité historique et mythologie. Mais bon, je crois qu'on a aussi besoin de ces mythes. Et puis, c'est aussi, Cordoue est aussi le point d'origine des musiques qu'on interprète. Donc, voilà pour Cordoue. Et puis, 21, eh bien, 21, c'est tout bêtement un clin d'œil à notre siècle, hein, puisque on n'avait pas du tout envie de faire un disque qui soit une reconstitution historique. On avait plutôt envie de quelque chose qui témoigne aussi de ce qui se vit aujourd'hui entre nous, à Paris, dans cette ville de toutes les diasporas, où les rencontres, où les échanges sont possibles comme ils l'ont été aussi à l'époque de Cordoue. C'est donc pour ça qu'on l'a appelé Cordoue 21, que j'ai choisi ce petit clin d'œil un peu eh bien, au siècle qui est le nôtre. Et puis, il ne faut pas oublier que le sous-titre du disque, c'est « Sur les traces de Séfarade ». Et donc, c'est bien aussi l'idée de traces qui est importante pour nous. Au-delà de la reconstitution historique, c'est une rêverie musicale au départ de Cordoue.
On sent que vous l'avez conçu aussi comme un voyage, parce que vous nous embarquez à travers des étapes musicales, et qui sont à la fois, je dirais, d'un point de vue diachronique et synchronique, c'est-à-dire à travers le temps et à travers l'espace.
Tout à fait, c'est exactement l'idée.
Vous avez, je crois, six étapes. Qui sont lesquelles
Alors la première, c'est Cordoue, je crois que la première, c'est Grenade, en fait, dans le CD, puisqu'on ouvre le CD avec un extrait du romancero espagnol et de la Perdida de Alhama, donc de la chute du royaume de Grenade. Ensuite, on a Cordoue. Après, si je ne me trompe pas, on a Istanbul ou Salonique, je ne sais plus dans quel ordre.
Vous allez voir que j'allais bien écouter.
C'est Salonique d'abord ou Cordoue.
Salonique,
ou Istanbul.
En fait, vous faites un tour par les Balkans
Salonique,
et ensuite
Istanbul
effectivement.
Salonique, Istanbul, ensuite le Maghreb avec de Tunis à Alger. Oui. Et puis enfin Paris, justement, même s'il n'y a pas de musique parisienne, bien évidemment, là-dessus. Mais c'est l'idée que c'est à Paris que le projet a été élaboré. C'est à Paris que nous faisons cette musique aujourd'hui.
Et puis c'est à Paris et en France même qu'on a une communauté d'Afrique du Nord très importante.
Absolument.
Qui continue à véhiculer cette tradition séfarade.
Oui.
Et on va voir tout au long de cette émission que ce mot séfarade n'est pas anodin en fait. Ça transparaît dans votre livret qui est particulièrement intéressant, que je recommande à nos auditeurs. Ne serait-ce que pour ça, je leur recommande même d'acheter le disque physique parce que vous avez le livret qui est vraiment très bien. Et je vous propose justement de continuer en musique avant de parler de ce livret et d'écouter un de ces tableaux, parce que c'est un voyage pictural et musical en quelque sorte.
C'est vrai.
Que vous avez intitulé fort et élégamment à Cordoue, les femmes sont aussi poètes. C'est quand même très beau. Donc avec la chanson classique du répertoire judéo-espagnol, Morena Meyaman, qui est d'ailleurs précédée d'une belle improvisation vocale de votre complice Rachid Brahim Djelloul, et vous nous parlerez, je crois, après des interprètes du CD. On écoute dès à présent cet extrait donc, de votre CD Cordoue 21.
لا هون لا حضن وذاك الأمر يمنعني رقادي وذاك الأمر
Morena Meyaman, une musique extraite donc du CD Cordoue 21 sur les traces de Sepharad, interprétée ici par Sandra Bessis, que j'ai le plaisir d'avoir dans ce studio ce soir, mais bien sûr avec la complicité de Rachid Brahim Djelloul. Je crois que vous avez également d'autres complices pour ce CD. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu leur nom?
Bien sûr. Alors donc, Rachid est le plus proche, si je puis dire, puisque nous sommes les deux chanteurs du CD. Il est, avant d'être chanteur, il est violoniste. Et donc, le CD est aussi l'aboutissement d'un travail de presque 10 années ensemble, et il en est le directeur musical. Alors, à côté de Rachid se trouve Nourdine Aliane, qui est au oud et au mandol, avec qui aussi nous jouons depuis longtemps. Il y a également Jaško Ramić, qui est serbe, Dzigan de Serbie, et donc qui apporte ce côté, qui est un magnifique accordéoniste, et qui apporte ce côté balkanique, hein, qui a du sens par rapport à ses musiques, puisque après tout... L'exode des Juifs d'Espagne, c'est aussi dirigé par
la Balkans, voilà, tout à fait.
Il y a aussi Youssef Zayed, qui est un jeune percussionniste tout à fait talentueux. Et puis, nous avons deux invités, qui sont Théo Girard à la contrebasse et Araik Bartikian au doudouk.
Voilà. C'est une distribution très cosmopolite, entre
Absolument.
Guillemets, mais c'est intéressant parce que c'est, et vous le dites fort bien dans le livret, à l'instar des musiques séfarades qui sont imprégnées de toutes les influences des pays d'accueil des juifs issus d'Espagne. Donc on y trouve évidemment les influences du Maghreb, les influences des
Tout
Balkans, et donc ces musiciens connaissent parfaitement ces musiques. Alors moi, il y a toujours une question, je le lis dans votre livret, c'est vrai que quand on interprète ces musiques, souvent, elles étaient chantées pour voix seule. On en a des traces, en fait, relativement très peu de traces écrites. On a surtout la tradition orale, mais
Absolument.
Qui, comme toute tradition orale, a évolué au fur et à mesure des siècles. Donc, quand aujourd'hui, on réinterprète ce répertoire, on ne peut pas vraiment le faire comme avant. Chanter à voix nue, c'est un peu difficile. Alors, comment on aborde ça ?
Alors, je pense qu'il y a justement la beauté de ces musiques, la richesse de ces musiques, c'est qu'elles laissent beaucoup de liberté à ces interprètes, puisque, comme vous le dites, on n'a pas de traces. Et je crois que le fait de dire « c'était comme ça que c'était joué », enfin, j'allais employer un terme fort, j'allais dire c'est un peu une imposture, c'est peut-être beaucoup, mais dans tous les cas, on n'en sait rien. Et puis, ça n'a sûrement pas été joué de la même façon tout au long de ces 5 siècles et un peu plus qui nous séparent de 1492. Je pense que ça a été joué très différemment selon les terres d'accueil des communautés séfarades. Et c'est vrai que parfois, ça m'est arrivé de les chanter un peu a cappella. Et j'y prends aussi beaucoup de plaisir. Et ça a aussi une vérité, si je puis dire. Dans certains décédés, il y a souvent une musique, au moins un chant a cappella. Sinon, eh bien, on se laisse guider à la fois par ce que les textes nous inspirent, ce que les mélodies nous inspirent, ce que les modes musicaux nous inspirent. Et à partir de là, c'est une recréation.
Non, en fait, vous êtes dans une démarche artistique. Je crois qu'il ne faut pas rechercher l'authenticité, qui d'ailleurs ne signifie rien en tant que telle, puisque authentique par rapport à quoi, par rapport à quelle période, à quel lieu, qui chante. L'authenticité, on se fait souvent que c'est un mythe, en tout cas en musicologie. Mais là, vous êtes dans une démarche, comme vous l'avez dit, de récréation artistique, mais une démarche aussi esthétique qui permet d'approcher l'âme de cette musique.
Voilà,
peut-être.
Et puis qui change en fonction des années. C'est vrai que ce que j'ai pu faire il y a, je ne sais pas, 20 ans ou plus, ne ressemble pas à ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, c'est l'évolution de ce processus. Et je suis contente qu'un musicologue, moi je ne suis pas musicologue, finalement qu'on se rejoigne aussi sur cette idée d'authenticité qui est discutable.
Alors justement, parlons de votre parcours. Vous parlez de 20 ans. Moi, je vous ai connu, je pense même, ça fait peut-être même 25 ans, on ne le dira pas trop fort. C'était à la fin des années 80. Vous avez sorti, je crois, votre premier disque en 1992, mais vous chantiez déjà avant, comme on dit. Et vous étiez peu à l'époque. Hein. Moi, je me rappelle, alors j'ai toujours peur d'oublier des gens, mais je citerai évidemment Henrietta Zen, qui est bien connue.
Oui, bien sûr.
Racinta, bien Esther Lamandier, Hélène Engel, qui chantait aussi du répertoire yiddish, François Atlan, Marlène Samoun et bien d'autres encore, et je m'excuse auprès de toutes celles et ceux que j'ai oubliés, qui ont fait revivre parce qu'à cette fin des années 80, c'est vrai que la musique espagnole était un petit peu passée aux oubliettes, et il y a eu une espèce de revival, un peu comme la musique yiddish, mais un petit peu plus tardif, je crois.
Peut-être, tout à fait.
Et vous avez fait partie de ces pionnières. Comment ça vous est venu, cette idée un peu saugrenue?
Alors, c'est une longue histoire. Vous parlez de notre première rencontre, si j'ai bon souvenir, mais peut-être que c'était avant, c'était en 92 à Bayonne, où vous étiez jeune musicologue. Et moi, jeune chanteuse. Voilà, donc ça remonte à... Dans tous les cas, pour moi, mon intérêt pour ces musiques date effectivement du milieu des années 80, j'ai envie de dire. Et comme beaucoup des chanteuses que vous avez citées, qui ont participé à ce revival en France, dans tous les cas, sauf bien sûr Henrietta Zen, qui appartient à une autre génération, c'était la génération quasi de nos mères, ou presque, et qui était effectivement, qui a reçu ces musiques en héritage, ça n'est pas notre cas pour la plupart de celles que vous avez citées, ça n'est dans tous les cas pas mon cas. Moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas été bercée par ces musiques, parce que je suis juive tunisienne, et qu'en Tunisie, on ne connaissait pas ces musiques. On connaissait, il y a deux lignées des juifs tunisiens qui sont à la fois la lignée judéo-arabe et même plus précisément judéo-berbère, et puis la lignée livournaise.
Les Grenas, voilà.
Et moi, j'appartiens à part quasiment égale à ces deux lignées-là. Donc, le judéo-espagnol, le ladino, comme on disait, était inconnu, si ce n'est parce que j'avais un grand-oncle qui était marié à une juive turque qui parlait le ladino, et ça nous paraissait très exotique. Alors, très étonnamment, en fait, c'est un chanteur yiddish qui m'a fait découvrir le répertoire judéo-espagnol, qui était à la fois un ami et un voisin, c'est Ben Zimet, pour ne pas le citer. Et voilà, et c'est vrai qu'il m'entendait chanter, je faisais bien évidemment de la musique, et il m'a dit, mais tu devrais chanter ce répertoire, c'est très beau, et c'est lui qui me l'a fait connaître, donc je lui tire un petit coup de chapeau au passage, et puis j'ai commencé à aller chercher dans les bibliothèques, j'ai écouté bien évidemment Esther Lamandier, qui était un peu la pionnière en France, et puis petit à petit, je me suis intéressée à tout ça. Je me souviens d'un des premier concert de Jacinta aussi, qui devait être fraîchement arrivé d'Argentine à cette époque-là et qui interprétait aussi ce répertoire. Et puis voilà, c'est comme ça que l'histoire des musiques judo-espagnoles, pour moi, a commencé. La familiarisation avec la culture, avec la langue, avec les cours de Chaim Vidal Sefira, enfin voilà, toute cette épopée, cette petite épopée des judo-espagnols en France.
On va y revenir, mais on va ponctuer encore une fois cette émission d'extraits musicaux. Et donc, un troisième extrait, toujours de votre disque, Bré Sabrika Bré. Et celui-là provient, en fait, comme à chaque fois, c'est des étapes. Donc, justement, c'est Istanbul.
Absolument.
Entre musique de cour et chant de rue. Thank you.
poco de agua, besar y café. Tráeme un poco de agua, estoy descalza. El rocío en vaso, besé y llena el pie, besé y llena el pie. Estoy descalza, el rocío en vaso, besé y llena el pie, besé y llena el pie.
Bré, Sabri Cabré, toujours extrait de l'album Cordou 21 sur les traces de Séfarade. Et Sandra Bessis, on était en train de discuter un peu hors micro, et on va peut-être faire partager à nos auditeurs cette discussion passionnante, parce qu'on voit bien qu'on est dans un univers musical encore différent, là, et c'est ça qui est intéressant dans la démarche de votre disque, c'est ce voyage musical, on change de musique, chaque musique nous introduit dans une étape et un voyage et une sphère géographique et musicale différente. Et là, on est du côté de l'Empire ottoman, et vous me disiez même que c'est un morceau à 11 temps. Alors, sans être trop technique pour nos auditeurs, ça se rattache plutôt à la sphère ottomane.
Oui, ottomane, balkanique aussi. On trouve aussi beaucoup de 11 temps dans la musique bulgare, mais dans tous les cas, ça, c'est un choix que l'on a fait parce que c'est vrai que c'est une chanson qu'on n'entend pas très souvent, que moi, j'ai entendue par d'autres interprètes à 7 temps, et c'est Rachid qui l'a arrangé pour 11 temps, puis pour 2 temps. Enfin, voilà. Donc, avec une influence un peu bulgare, on trouve beaucoup ces rythmes-là, je crois, dans
oui, l'introduction nous fait penser vraiment au Balkan, à la Bulgarie. Ouais. Mais alors, de quoi elle parle, cette chanson?
Alors, cette chanson, elle raconte l'histoire de la petite Sarika, qui est draguée, si je puis ainsi m'exprimer, par un jeune homme qui lui dit « Apporte-moi de l'eau », et elle lui dit « Non, je t'en apporte pas parce que je suis pieds nus, il fait froid », etc. Et le jeune homme lui dit « Mais moi, je vais t'acheter des chaussures, zapatos d'un capan, chismes de chibali », et puis elle lui dit « Non, j'en veux pas de tes chaussures, j'ai un père qui est marchand, qui m'en achètera de plus belle, et j'ai un frère qui est marin sur les mers et qui m'amènera un fiancé ». Voilà.
D'accord. Et Chimali, c'est quoi? C'est un quartier?
Alors, c'est Sami Sadak qui me disait que Unkapan et Chimali, c'était deux des rues d'Istanbul ou des quartiers d'Istanbul où on vend des chaussures. Voilà. D'accord. Donc,
on voit bien que là, ces chansons sont datées. Ces chansons-là, on n'est évidemment pas dans l'héritage direct castillan du 15e siècle ou du 16e siècle.
Non.
On voit bien que ces chansons ont évolué et que sans arrêt, il y a eu des apports, des créations.
Absolument.
Etc.
Oui, celle-ci est plus récente. Peut-être début du 20e, quelque chose comme ça.
Oui, non, c'est vraiment très intéressant. Et alors, moi, quand j'entends ce disque-là, et je connais un peu, parce que vous êtes quand même productif, vous avez, je crois, c'est votre 5e disque.
Oui, mais en longtemps, mais c'est le 5e.
C'est le 5e, voilà, félicitations. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, mais sans vouloir en aucune façon vous vexer et vous traiter en vieille dame mûre, mais ce disque n'est pas un peu celui de la maturité?
Eh bien, oui, je crois. Hein. Et puis, voilà. voilà, les cheveux gris l'attestent. Mais donc effectivement, le tout premier d'une lointaine Espagne date de 1992. Mmh. Et donc celui-ci est le dernier. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une forme d'aboutissement d'un long travail et puis de beaucoup de rencontres, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est aussi donc un projet qui a mis un petit peu longtemps à mûrir. Le précédent date de il y a presque 10 ans. Et c'est un projet collectif. C'est vraiment un travail de rencontre avec les musiciens qui en sont partie intégrante. Et il y a quelque chose de beaucoup plus orchestré par rapport aux autres CD. Enfin, dans tous les cas, pour moi, oui, c'est quelque chose comme ça.
Alors justement, on va peut-être entendre deux morceaux en fait qui sont extraits de vos précédents CD. Vous avez parlé du premier CD,
ouais,
qui était dans un style complètement différent.
Absolument.
Hein. C'était avec John McLean,
oui,
un flûtiste, je dirais presque un flûtiste fou. Il jouait de je ne
sais
combien de flûtes.
Il était formidable. Il est toujours d'ailleurs.
Et c'était assez étonnant d'ailleurs quand ouais, j'avais entendu ça. Et je trouve que c'est intéressant de le faire entendre à nos auditeurs. Vous avez choisi
volontiers
donc un morceau de ce premier CD. Donc ce premier CD qui s'intitulait et qui s'intitule toujours d'ailleurs d'une lointaine Espagne.
Oui,
je ne sais pas si on le trouve
après,
encore.
C'est un petit clin d'œil.
D'accord.
Aussi.
Et donc, on va entendre un extrait de Pájaros de Hermosura.
Por una casa chica, vidi una hijica. De años era chica, le declaré el amor. De años era chica, le declaré el amor. Salí delante de ella, hermosa como la estrella, ella me encendió con ella, sin tener piedad. Ella me encendió con ella, sin tener piedad. Pájaro de hermosura, linda la tu figura, acércate al mio lado, te oyeré la voz. Acércate al mio lado, te oyeré la voz. El pájaro se acerca del mio lado. En fin de los minutos, el pájaro voló. En fin de los minutos, el pájaro voló. El pájaro volando, mi corazón llorando, y me dejó esperando, sin tener piedad. Y me dejó esperando, sin tener piedad.
Pájaros de Hermosura, donc extrait d'un CD lointain d'ailleurs, qui s'intitule D'une lointaine Espagne,
oui,
publié donc en 1992,
de
notre ère
passé,
quand même.
Au siècle passé.
Et alors pourquoi D'une lointaine Espagne?
Alors D'une lointaine Espagne parce que bien sûr ce sont des chants séfarades donc qui évoquent cette lointaine Espagne, et puis c'était aussi dans tous les cas dans mon esprit, c'est ça qui pour moi m'a conduit à donner ce titre à l'album, c'était un mot d'une chanson de Léo Ferré qui s'appelle « L'étang chimérique » et qui dit « Nos plus beaux souvenirs fleurissent sur l'étang de ce lointain château d'une lointaine Espagne, et nous ne garderons pour nous, ô ma compagne, que ce blanc nénuphar et ton cœur de 20 ans. » Donc voilà, c'est une très belle chanson et parfois je la chantais même en bis, et voilà, c'est pour ça que le disque s'appelait « D'une lointaine Espagne » et la chanson c'était « Pájaro de Hermosura » et c'était, oui, moi je suis attachée à ce CD parce que parce qu'on était assez ignorant, si je puis dire, à l'époque. Et du coup, il a la fraîcheur de cette ignorance. Il n'y a pas de référence.
La fraîcheur peut-être de cette innocence.
Ou de cette innocence, voilà, merci.
Oui. moi, ce que je trouve tout à fait intéressant dans ce CD, c'est que quelque part, il recontextualise ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir que là, on a vraiment une mélodie et qui est extrêmement répétitive.
Hein.
Et qu'on répète,
Voilà.
Mais comme ces chants l'étaient, c'était des chants simples, avec voilà. Et donc, on a cette flûte qui papillonne autour de qui en contrepoint, c'est vraiment amusant et c'est intéressant. Et vous chantez un peu à la façon justement de ces femmes qui chantaient ces mélodies.
Oui, tout à fait, sans trop d'artifice. Oui, c'est...
Voilà, et on a cette voix. Et là, on voit donc aujourd'hui que vous êtes dans une démarche totalement autre.
Eh ben oui.
Mais c'est ça qui est assez intéressant parce que, en fait, aussi, ce qu'il faut montrer par rapport à ces chants, c'est que la forme souvent de ces chants, je l'ai dit, est très simple. En tout cas, les chants comme ça, assez anciens.
Oui.
Faut pas oublier que la poésie, ce qu'on appelle parfois les pioutimes, a eu son âge d'or en Espagne, notamment à partir du Xe siècle et bien au-delà. Il y a eu des écoles extraordinaires qui se sont après répandues dans le monde entier et qui se sont appuyées sur cette forme de refrain couplet ou forme strophique qui n'existait pas avant, d'ailleurs, en fait, dans les musiques juives. Très inspirée par l'environnement,
le contexte bien sûr.
Notamment des musiques de l'islam, parce que l'islam a beaucoup apporté. C'est vrai que cette Espagne, on va en parler, multiculturelle, a été quand même un lieu de création, rencontres extraordinaires.
C'est indéniable, absolument.
Et qui a influencé donc ces chants que nous entendons aujourd'hui.
Oui.
On va entendre, alors peut-être à la suite de ça, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose.
C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que dans ce CD, on écoutait avec John, hein, puisque là, c'est un CD où on n'est que deux. Hein, donc, moi-même pour le chant et John aux multiples flûtes, comme vous le disiez. Eh bien, on se laissait là aussi, on partait vraiment sur une recréation, mais de façon très... Vraiment en partant de la mélodie et... avec très peu d'artifice, en fait. Mais quand même de la fantaisie, puisque les instruments n'étaient pas... Là aussi, il n'y avait pas de recherche musicologique. On était de la flûte à bec, à la traversière, au saxophone. Enfin, voilà, on s'est amusé.
Très bien. Eh bien, écoutez, on va entendre donc un deuxième extrait qui s'appelle
Dos Amantes. Tengo la mi mama.
Ça veut dire quoi, déjà?
Ça veut dire j'ai deux amants ou deux amoureux, ma mère.
C'est une chanson
un peu coquine.
Hein.
Oui, absolument.
Donc, extrait de votre deuxième CD qui s'appelle Paseando.
Dos amantes, tengo la mi mama, algo que me tome yo. Dos amantes, tengo la mi mama, algo que me tome yo. Particular. El uno es pantalonero, el otro es particular. Al pantalonero la mi mamá engañándolo estoy. Al pantalonero la mi mamá engañándolo estoy. Al particular mi mamá lo amo de corazón. Al particular
Yo. Dos Amantes Tengo La Mi Mama, donc une chanson extraite du CD Paseando paru en 1996.
Oui.
Paseando, ça signifie quoi déjà?
Alors paseando, ça veut dire en marchant, en cheminant, en promenant, et voilà.
Bon, ben on
c'est
va
encore cette idée de balade.
De balade, on va continuer à cheminer avec vous. Donc dans ce deuxième disque, les musiciens qui vous accompagnaient, c'était qui?
Alors, on avait au saxo toujours notre ami John McLean. On avait à la viole de gambe, puisque c'était Philippe Foulon, qui est plutôt un très beau spécialiste des musiques baroques. Et à la percussion, je crois que c'était Alain Bouchot qui était à la percussion.
D'accord. Alors, vous parlez justement de viol de gambe et ça amène la question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure.
Ouais.
C'est que, donc, comme on l'a vu, ces musiques peuvent s'interpréter. Enfin, aujourd'hui, leur interprétation, en gros, il y a deux façons de faire. Soit, je dirais, un petit peu à l'oriental, en s'inspirant
ouais.
justement de la civilisation, plutôt de l'islam qui était à Grenade, à Cordoue, etc. Soit en le jouant avec des instruments médiévaux.
Oui.
Donc là, on est plutôt du côté.
Médiéval, oui.
Chrétien, mmh. Voilà. Là, donc, la viole de gambe est plutôt un instrument, et encore, elle est venue d'Orient, mais après, elle a été beaucoup utilisée dans
plus
les instruments
tard,
plus tard.
Un petit peu plus tard, oui.
Et vous, alors, parce qu'il y a des artistes qui se dirigent vers ce côté médiéval.
Absolument, il y en a beaucoup.
Beaucoup,
oui.
Je pense
ouais.
évidemment Jordi Savall.
Bien sûr.
Y a encore d'autres qui
oui.
ont utilisé. Vous, c'est plutôt le côté oriental. Vous mélangez les deux. Comment vous faites? Parce que ça, c'est.
Alors ça aussi, je crois que ça a un peu dépendu des périodes et puis des rencontres aussi, puisque John, dont on parlait tout à l'heure, est américain, donc avec un goût pour le jazz, mais il vient quand même des musiques médiévales et des musiques baroques, mais beaucoup, beaucoup de la musique médiévale. Il a énormément joué les musiques médiévales. Ensuite, dans ce deuxième CD, Paseando, c'est lui d'ailleurs qui m'avait fait rencontrer Philippe Foulon, qui lui est un musicien qui vient aussi de cet univers-là, donc médiéval et baroque. Alors, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, la viole de gambe était utilisée complètement à contre-emploi, si je puis dire, mais dans le reste du disque, il y a des couleurs beaucoup plus marquées par l'influence médiévale, justement. Ensuite, c'est vrai que j'ai longtemps joué avec une autre gambiste qui s'appelle Isabelle Kellier, qui vient aussi de l'univers médiéval et baroque. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie de retrouver aussi le côté oriental, qui est après tout aussi celui d'une part importante de mes racines. Hein. Donc, voilà, il y a eu tout ce voyage dans mon propre cheminement aussi, qui m'a conduit de plus en plus vers un retour aux origines, je dirais, de la terre d'islam où je suis née.
Voilà. Très bien. Eh ben, on va revenir donc à ce très beau disque que vous venez de publier, donc Cordoue 21 sur les traces de Séfarade. Vous nous direz d'ailleurs en fin d'émission comment et où se le procurer.
Bien sûr.
Et comme je le disais, oui, c'est un disque qui est très très bien documenté. Il est beau d'abord, c'est un bel objet, puis il a une belle plaquette. Et vous écrivez notamment, et je vais vous citer, hein, parce que c'est vous qui le signez là, c'est
oui, oui.
Sandra Bessis. L'esprit de Cordoue, cette Cordoue-là n'est plus depuis 9 ou 10 siècles. Les siècles qui nous en séparent ont fixé l'éternelle nostalgie de la convivencia, de l'harmonie des jardins de Grenade, nous faisant parfois oublier que l'on s'y est battu, pour des frontières, pour le pouvoir, pour un dieu, pour faire comme d'habitude. Et personnellement, moi, je trouve cette phrase, ce texte très fort, parce qu'il remet en cause le mythe même de cette convivencia, vous savez, ce terme très utilisé actuellement, qu'on peut dire, comment on peut le traduire, la coexistence, la cohabitation.
Le vivre ensemble, on pourrait le traduire. Convivencia, c'est vraiment vivre ensemble, hein, convivencia, donc c'est vraiment, étymologiquement, ça veut dire vivre ensemble.
Et donc cet âge idéal qui aurait existé en Espagne entre musulmans, chrétiens et juifs, certains disent carrément de 711 à 492 quand
oui.
on regarde un petit peu sur Internet. Et or, on sait
c'est
déjà que
vrai,
c'est
oui.
pas vrai. Si les juifs ont eu à la limite un âge d'or en Espagne, celui-ci s'est plutôt limité au 10e et 11e siècle, à l'époque de Maïmonide et tout. Mais dès le milieu du 11e siècle, les premières persécutions ont commencé. Et voilà, cette référence un peu constante à cette convivencia, est-ce que ça répond pas plutôt à un désir politique de limiter les frictions communautaires que l'on connaît actuellement? C'est une question qu'on peut se poser.
Oui, alors effectivement, on parle souvent de cette Cordoue, de cette Andalousie, dans tous les cas, comme le symbole de cette convivencia. Alors c'est à la fois, c'est ce qu'on disait un petit peu au début de l'émission, c'est à la fois une réalité historique et un mythe. Alors un mythe, c'est pas forcément tout à fait vrai, c'est pas non plus forcément tout à fait faux, mais c'est dans tous les cas quelque chose dont on a parfois besoin pour vivre, hein, ces fameux mythes fondateurs. Mais c'est important aussi de les relativiser, comme vous venez de le faire, c'est vrai. Qu'il y a eu au cours de toute cette longue période de l'Andalousie musulmane, pour aller vite, des périodes très riches, pas seulement du côté des musulmans, aussi du côté chrétien. Je pense à la cour d'Alphonse le Sage, donc au XIIIe siècle, avec les fameuses Cantigas de Santa Maria, etc. Mais il y a aussi eu des périodes noires, parce que après tout, à l'époque comme aujourd'hui, c'était toujours des humains qui faisaient l'histoire, et on sait bien que les humains sont pas toujours très doués pour l'âge d'or. Donc voilà. Hein, donc il y a eu aussi, mais on peut pas non plus oublier que ça a aussi été une période, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, de création, à la fois sur le plan philosophique, à la fois sur le plan scientifique, à la fois sur le plan poétique et musical, et que c'est riche. Enfin, on est aussi porteur de cette histoire.
Je pense que c'est d'autant plus important de le rappeler qu'à notre époque, on est quand même, on en sent une certaine peur et certain repli, la rencontre est toujours quelque chose de constructif, en fait, même si elle est parfois douloureuse.
Mais oui, puis je crois que ce qui me vient, c'est que en fait, l'échange, c'est un état naturel, je crois, des humains, enfin de la vie, du vivant, si je puis dire. Et c'est vrai qu'il y a des périodes, et malheureusement, on est dans une de ces périodes qui sont des périodes de repli chez un peu tout le monde. Et il ne faut pas oublier que... Enfin, moi, je me souviens d'avoir un jour entendu un généticien fort connu, c'était Albert Jacquard, pour ne pas le nommer, qui disait, mais en génétique, pureté, c'est synonyme de pauvreté. Donc voilà, c'est l'échange qui fait la vie, c'est pas l'inverse.
Et ça, vous le dites très bien encore une fois dans votre livret, et vous démystifiez encore cette pureté, entre guillemets, de l'héritage musical juif. Je vous cite, vous dites « Une des particularités de ces musiques ne se trouve-t-elle pas en effet dans ces croisements, cette mixité, cette impureté, entre guillemets, pourrions-nous dire, qui font sa richesse ?» Car les séfarades, comme les tziganes et les gitans, autres itinérants, se sont laissés imprégner au cours de leur déplacement par les habitudes culturelles et musicales de leur terre d'accueil et d'exil, façonnant des formes multiples et restant cependant fidèlement attachés à la langue originelle. Et là, je ne peux dire que bravo.
Oui, c'est important pour moi qu'un musicologue, qu'on puisse partager ça, parce qu'encore une fois, je ne suis pas historienne de la musique, mais il me semble, de la connaissance que je peux en avoir, que c'est vrai pour toutes les musiques, mais c'est peut-être particulièrement vrai pour les musiques juives, qui sont des musiques mixtes, parce que ce sont des musiques de peuples itinérants.
Déterritorialisées, comme les gitans, comme les tziganes, et donc forcément elles évoluent encore plus vite au contact des...
Absolument.
Ça, c'est évident. Donc là, on abat le mythe de cette musique qui nous viendrait du roi Salomon, du roi David, et qui n'aurait pas bougé depuis longtemps.
Grâce au ciel, les choses bougent, sinon... Puis je voudrais pas que nous, juifs ou séfarades, on utilise les armes de ceux qui nous ont été, je pense notamment aux inquisiteurs, qui parlaient de la limpieza de sangre, la pureté de sang.
Tout à fait.
Grâce au ciel, éloignons-nous de ça.
En musique, toujours avec vous, on va entendre deux extraits successivement. Donc, un premier extrait qui s'intitule Yedi Koulé, qui, je crois, porte le nom sinistre d'une prison de Salonique.
Oui, la prison des sept tours.
Voilà. Et ce chant sera suivi immédiatement du chant Aman Minouche, lui aussi vraisemblablement originaire de Turquie et qui est devenu en quelque sorte un tube des chansons judo-espagnoles régulièrement chantées à Paris aujourd'hui. Je l'ai entendu souvent et c'est vrai que c'est très entraînant. Donc, ces deux extraits les uns à la suite.
I don't know.
Aman Minouche, un extrait très court et avant on a entendu Yedi Koulé. Alors il nous reste très peu de temps, juste un mot ou deux sur votre actualité musicale, Sandra.
La plus proche, c'est après-demain, donc jeudi 13 février au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à 20h. Et puis ensuite, ce sera le 7 mars à l'espace Aimé Césaire à Gennevilliers. Pour ceux qui écoutent cette émission d'un peu loin, nous serons le 22 mars à Grenoble et le 23 chez nos amis, les amis de la musique juive à Genève, 23 mars.
Alors vous retrouvez tous ces renseignements sur le site de Sandra Bessis, c'est très facile, vous tapez Sandra Bessis, c'est sandra-bessis.com et vous trouverez toute son actualité et de nombreux exemples musicaux. On écoute un dernier extrait mais très 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 court, pour ne pas sacrifier, ça s'appelle Yaoumi, c'est une chanson dédiée à la mère, à la mère juive, et c'est surtout le côté oriental que je voudrais faire entendre.
Yaoumi, 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 Asamakada.
Un très bref extrait de Yaoumi pour finir par cette étape entre Tunis et Alger dans les années 40 et 50. Mm-hmm. Maintenant, si vous voulez en savoir et surtout en entendre plus, il vous faut vous procurer le CD de Sandra Bessis, puisque notre émission se termine. Je tiens évidemment à vous remercier infiniment, Sandra, pour votre présence dans ce studio ce soir.
C'est
et
moi qui
le travail que vous effectuez depuis plus de 25 ans pour nous, pour faire revivre et nous faire apprécier ces musiques séfarades. Donc, si vous souhaitez réécouter cette émission, bien entendu, elle sera disponible dès demain sur le site de l'Institut européen des musiques juives, dont je rappelle l'adresse www.cfmj.fr, et bien sûr sur le site de judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro Hervé Roten, David à la technique, toujours aussi impeccable. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
I'm the sugar for my baby and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby and my baby's crazy for me. Things were mild till I'm